De jour en jour, d'heure en heure, les forces des talibans prennent de plus en plus d'espace et Kandahar est tombé, Kaboul est tombé, Alep est tombé. Évidemment, quand on parle de tombé, je ne pense pas que ce soit au terme de grands combats. Je pense que les gens se rendent. Il n'y a pas trop d'opposition dans la population. Et quand on voit la façon dont, évidemment, les talibans mènent le jeu, on a raison de s'inquiéter dans la population. Fabrice de Pierrebourg, vous êtes journaliste d'enquête. Vous revenez il y a quelques semaines à peine, hein, je pense, de l'Afghanistan.
4 semaines, oui.
4 semaines. Est-ce qu'il y a 4 semaines, ça sentait ce qui était pour arriver?
Ah, tout à fait. C'est... En ce moment, on voit que c'est un rouleau compresseur. Les talibans ont accéléré la cadence depuis quelques jours. Mais moi, quand j'y étais, ça commençait déjà. C'est-à-dire que ils avaient à peu près 30 ou 40% des districts du pays qui étaient entre leurs mains, mais ils n'avaient pas pris la plupart des capitales régionales, vraiment les villes importantes. Ils étaient surtout actifs dans les zones rurales. Moi, j'avais été dans une ville où ils avaient essayé de pénétrer la veille et ils avaient été repoussés. Mais là, depuis une semaine, les capitales régionales, provincial, pardon, dont Kandahar, qui a une forte valeur symbolique pour les talibans, puisque c'est là où le mouvement finalement est né, c'est leur berceau, c'était là où le Mollah Omar, leur chef et chef de gouvernement taliban, s'est installé. Ils l'ont repris hier. Mais pour Kandahar, il y a quand même eu, je dirais, à peu près un mois de siège, c'est-à-dire qu'ils ont ils font toujours pareil. Ils commencent par les villes périphériques, puis se rapprochent, et à un moment donné, écoutez, ils arrivent à prendre des villes comme ça sans quasiment aucun combat.
Bon.
C'est-à-dire que les militaires, il y a eu des images à Kandahar, on voyait des convois de militaires afghans, de milices levées par des seigneurs de guerre locaux, puis d'officiels du gouvernement qui fuyaient littéralement. Partaient leur véhicule à toute vitesse pour quitter la ville, quoi.
C'est pas une occupation qui est comme ce qu'on pourrait imaginer dans la tête la plus simple. Eux, là, ils se donnent l'autorité d'avoir le contrôle de ce pays. Ce sont des Afghans, mais talibans. Alors, la population, elle, est contrainte à leur contrôle.
Oui et non. Faut quand même rappeler qu'ils ont eu le pouvoir entre 1996 et 2001.
Oui.
Mais à l'époque, il y avait toute une région, en général, dans le nord de l'Afghanistan, c'était des régions qui étaient assez hostiles au mouvement taliban. C'est là où il y avait des anciens chefs moudjahidines qui s'étaient battus contre les soviétiques. Ils ne voulaient rien entendre non plus des talibans. Donc, c'était plus difficile pour eux de prendre le nord à l'époque. Mais là, on voit qu'ils ont aussi conquis des provinces du nord. Donc, ça, c'est extrêmement important et extrêmement inquiétant. Mais dans les régions où ils prennent le contrôle, il y a une partie de la population qui est d'accord avec eux. C'est-à-dire que si vous allez en ville à Kaboul, où là, c'est beaucoup une population qui est très jeune, qui pour la plupart n'ont pas connu à cette époque-là, puisque 60%, je pense, de la population a moins de 25 ans en Afghanistan. Mmh. Les plus âgés sont plus dans les zones rurales. Ben, dans les villes conquises, souvent, les vidéos que je peux voir passer, ben, le monde, enfin, en tout cas les hommes, là, sont assez contents de les voir arriver parce que ils se retrouvaient face à une situation où ils considéraient finalement que le pouvoir était corrompu, qu'ils étaient à la merci de seigneurs de guerre armés, financés par l'Occident, et qui étaient la cause d'exactions dans la population civile. Donc finalement, entre la peste et le choléra, ils ont choisi une de ces deux maladies. Et pour l'instant, la maladie qu'ils ont choisie dans la plupart de l'Afghanistan, ce sont les talibans, quoi.
Tout l'effort international, en tout cas la politique internationale, d'aller là pour rétablir de l'ordre et évincer les talibans, bon, etc., tout ça n'a rien donné, là, c'est terminé. On oublie ça, on ne retournera pas.
Disons que c'est très mitigé, ça a donné quelque chose pendant peut-être une vingtaine d'années, où, par exemple, les femmes ont connu une certaine émancipation dans la société afghane, du moins dans les villes, peut-être que dans les campagnes c'est un peu différent. Mais c'est sûr que tout ça va s'effacer rapidement. Mais je veux dire, c'était quasiment inéluctable. Il y a eu des documents qui ont été obtenus, je pense, par le Washington Post, il y a un an ou deux, sur des documents secrets sur l'Afghanistan qui venaient de hauts responsables politiques américains, de hauts responsables militaires. Et eux-mêmes, dès les années 2008-2009, ont considéré que c'était fini. Qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient là. Il confirmait que la corruption était devenue endémique. Donc, c'était un état des lieux qui était catastrophique. Mais officiellement, c'était pas le discours qu'on servait dans les médias et dans les milieux politiques. On parlait d'une réussite, etc. Les talibans étaient désespérés. Moi, souvent, je l'ai entendu. À l'époque, je suis allé en 2007-2008. Et puis, quand les talibans ont recommencé ces années-là, leur offensive, entre autres, dans la région de Kandahar, qui était sous la houlette des Canadiens, le discours officiel, c'était de dire « Mais ne vous inquiétez pas, les talibans sont désespérés. C'est pour ça qu'ils font des attentats. Ils n'ont plus d'emprise dans la population. Ils ne reviendront jamais au pouvoir. » Regardez le résultat.
Ouais, c'était pas une bonne lecture de la situation. Dites-moi, pour ces gens qui ont vu pendant un certain temps une certaine lumière, une possibilité d'aller à l'école, en classe, d'avoir un enseignement, de pas être sous le joug de la charia, etc., etc., est-ce que ces gens-là peuvent sortir du pays? Est-ce qu'il y a un exode qui va se faire ou ce sera également contrôlé, ça?
Ben écoutez, c'est comme toujours, seuls les plus riches vont peut-être pouvoir réussir à partir ou sont déjà partis. Il y a, par exemple, certains pays comme les Américains qui ont déjà commencé à évacuer des ressortissants afghans mais qui ont travaillé pour eux. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a à peu près 2000 qui sont déjà sortis. Il y a beaucoup de pression, on s'en est déjà parlé, pour que le Canada fasse pareil. Avec ses traducteurs, entre autres, puis tous les auxiliaires qui ont travaillé pour l'armée canadienne. Puis moi, je peux vous dire que ce matin encore, un traducteur qui a travaillé pour l'armée canadienne que j'ai rencontré là-bas m'a encore envoyé un message sur WhatsApp d'appel au secours. Il a envoyé son dossier fin juillet quand le gouvernement canadien, tous les ministres et le premier ministre sont sortis pour dire qu'il ne laisserait pas tomber ces gens-là. Lui, il me dit qu'aujourd'hui, il n'a toujours aucune nouvelle et il a vraiment peur. Là, il me dit « aidez-moi, aidez-moi ». Donc, on en est là pour l'instant.
Quand on regarde ça, est-ce que les talibans qui vont contrôler le pays, là, avant qu'ils ne soient plus, là, j'ai l'impression, vont rétablir véritablement les règles selon leur vision du monde?
Ben, ils l'ont plus au début, là, parce qu'ils ont joué sur deux tableaux, les talibans.
Ben, c'est ça.
Ils ont une équipe de négociation officielle, politique, qui est au Qatar, puis qui rencontre des émissaires américains et du gouvernement afghan. Ils parcourent aussi la planète pour essayer de polir leur image en disant que, en laissant croire que ça ne sera plus le même gouvernement, qu'ils voudront toujours être ouverts avec l'extérieur, qu'ils ne voudront plus être isolés de la communauté internationale. Mais en même temps, on a des rapports sur place qui nous disent que dans certaines provinces où ils ont repris le contrôle, ben, ils réimposent la charia. C'est-à-dire que, je pense que c'est à Kandahar, ils sont arrivés dans des bureaux, dans des banques, ils ont demandé aux femmes qui travaillaient là de sortir et de rentrer chez elles parce qu'elles ne peuvent pas être en contact avec des hommes, et ainsi de suite. Des écoles sont fermées. Donc, on voit qu'entre les discours qu'ils peuvent tenir aux tables des négociations et la réalité sur le terrain, c'est deux choses différentes. Puis, c'est pas un mouvement qui est forcément, on dit les talibans, mais il y a des courants, je veux dire, c'est des mouvements un peu différents. Puis, ça se peut qu'effectivement, dans des zones plus reculées ou dans un ancrage plus historique, eux, ça soit de nouveau l'application des lois de la charia. Et il y a des vidéos, des photos qui circulent d'individus qui ont été arrêtés et reconnus coupables de vol, par exemple. C'était évident qu'ils allaient leur couper les mains comme ils faisaient avant, quoi. C'est l'application vraiment littérale de la charia.
Tout à fait. Les forces spéciales canadiennes qui se tiendraient prêtes pour aller aider à sortir le personnel de l'ambassade du Canada à Kaboul. Bon, on comprend qu'on sera un petit groupe probablement inscrit dans un mouvement plus large américain, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Écoutez, c'est normal. Là, c'est une situation vraiment d'urgence. On est face à un sauve-qui-peut. C'est normal que les forces spéciales canadiennes se préparent à évacuer les ressortissants, les diplomates, tous ceux qui sont encore dans l'ambassade fortifiée, parce que l'ambassade canadienne comme l'ambassade américaine sont véritablement des forteresses en Afghanistan. Il faut quand même rejoindre l'aéroport. L'ambassade américaine, moi, j'ai vu des gros hélicoptères chinois qui arrivent à se poser à l'intérieur. Donc, c'est sûr que toutes les capitales occidentales sont en train de réfléchir à un plan d'urgence. Les Américains, déjà, sont en train de déplacer probablement une part de leurs effectifs de l'ambassade sur le site même de l'aéroport de Kaboul, donc pouvoir être prêt à décoller et à fuir à n'importe quel moment. Mais écoutez, on peut s'attendre à des images dignes de celles qu'on a vues à Saïgon il y a plusieurs années, quoi. D'une véritable débâcle occidentale, quoi.
Oui. Bon, ces forces spéciales canadiennes, elles sont au même niveau d'efficacité, en moins grand nombre, là, mais d'efficacité que ce que l'on voit chez les forces spéciales américaines, mettons les SEALs ou quelque chose du genre.
Tout à fait. Puis je peux vous dire une petite anecdote, c'est que les premiers Canadiens qui sont arrivés en Afghanistan à la fin de 2001, c'est un petit contingent des forces d'opérations spéciales canadiennes qui ont été intégrés à une force qui était sous la houlette des Américains. Ils ont même reçu une médaille après. Non, ils sont tout à fait au niveau. Puis moi, je les ai vus à l'œuvre en Irak à l'automne 2016, au moment de l'offensive contre le groupe armé État islamique dans la région de Mossoul. Non, c'est un corps d'élite et qui ont aussi, d'ailleurs, comme vocation, si on parle du GTF2, par exemple, à l'origine, eux, c'est leur vocation originelle. C'est d'extraire des otages, faire des opérations commando comme ça dans des situations extrêmement difficiles. Puis après, évidemment, ils ont été intégrés au champ de bataille parce que c'est la réalité des guerres d'aujourd'hui, les forces d'opérations spéciales.
Alors donc, on ne saura pas quand, mais ça va se faire. Il va y avoir une intervention assez musclée et solide des forces spéciales, tant américaines que canadiennes, pour ramener le corps diplomatique canadien et américain.
C'est fort probable, mais c'est évident qu'ils ne vont pas nous donner leur plan à l'avance.
Non. Il n'y a pas de rendez-vous.
On aimerait ça, mais ils n'ont pas voulu.
Merci beaucoup, Fabrice de Pierrebourg.
Merci.
Au revoir. On s'arrête pour une pause.